Voici Sarah.
Voici Sarah.
Sarah Ursula Terrien.
Ursula Terrien.
Comment ça va?
Ça va bien. On dirait que je me souvenais plus que j'avais un nouveau thème. c'est fabuleux. C'est fabuleux.
J'adore ça. J'adore ça. Elle est avec nous, donc 88-670-9098, si vous avez des commentaires et des questions. Mais on fait un spécial classement d'école. Palmarès d'école. Je vais avoir ton avis sur ce qui est mesuré, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que ça mesure, est-ce que c'est fiable, non fiable, est-ce que tu aimes ça? Je veux t'entendre là-dessus. Sur ce classement-là l'Institut Fraser.
Il y a du stock à dire. Il y a du stock à dire. Écoute, hier, je préparais ça, puis j'étais là, mon Dieu, j'ai essayé de faire ça de façon synthétisée, puis j'ai 10 pages de stock en avant de moi. Là. C'est un classement qui est très relatif et qu'il faut interpréter avec beaucoup de nuances. Je commencerai par dire ça. C'est important de s'intéresser, comme tu dis, à qu'est-ce que ça mesure et à qu'est-ce que ça ne mesure pas. Donc, ça, c'est le premier point que je commencerai par clarifier.
Veux-tu aller avec le pot ou les fleurs avant?
Un hybride des deux.
Je fais le de même.
Un hybride des deux.
Donc, un hybride des deux, c'est bon.
Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que pour qu'une école arrive avec un score sur 10, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui sont évalués. Un des premiers, c'est vraiment les résultats aux épreuves ministérielles. Donc, justement, tout ce qui rentre épreuve ministérielle de français, là, l'épreuve uniforme de français que tous les jeunes doivent passer, mathématiques, anglais, langue seconde, histoire. Donc, vraiment, là, tout ce qui est examen du ministère, en gros, secondaire 4-5, ça va vraiment être les résultats qui vont être observés. Donc, c'est un premier critère.
T'en souviens-tu de ça, les examens du ministère?
Je m'en souviens très bien. Hey. C'était pas mes moments préférés.
Moi non plus. Chronométré dans le gymnase au séminaire Sainte-Marie. Et que c'était stressant.
C'est ça. L'anxiété de performance, let's go, on y va. Donc ça, c'est la première chose. Plusieurs autres indicateurs. Un des premiers, le taux d'échec. Donc également, à ces examens-là, à ces épreuves-là ministérielles, c'est quoi le pourcentage d'élèves qui sont en échec? Ça, c'est un deuxième point. Le troisième, l'écart entre les garçons et les filles. C'est-à-dire qu'une école dont les résultats diffèrent énormément entre les garçons et les filles aura un moins bon score qu'une école qui réussit à réduire les inégalités et dont les résultats seront assez uniformes entre les garçons et les filles. Donc ça, ça fait partie des éléments qui contribuent également à la note sur 10. Un autre point, c'est la tendance sur 5 ans. Donc, on veut observer une école, est-ce qu'elle est dans une tendance à la hausse? Est-ce qu'on observe vraiment des améliorations au fil des ans? Ou au contraire, est-ce que les résultats ont tendance à diminuer ou à stagner? Ça fait partie des autres points. La surestimation des résultats également. Donc, si pendant toute l'année scolaire, exemple, les élèves ont eu 85 % de moyenne en histoire, mais que là, à l'examen du ministère à la fin de l'année, la moyenne, c'est de 67. On considère que pendant toute l'année, les examens qui étaient faits plus maison là, dans les écoles pouvaient être trop faciles et donc ça peut diminuer le score d'une école. Il y a également le pourcentage d'élèves, les fameux EHDAA. Donc ça, c'est quoi? Les élèves qui sont handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
C'est ça. Dépendant des quartiers, il y a des écoles qui vont en accueillir davantage là, dans des quartiers défavorisés.
En effet, mais il faut aussi comprendre que ça, encore là, c'est un chiffre qui n'est pas nécessairement représentatif, au sens où il faut absolument que l'élève ait été enregistré là, dans le système. Donc, par exemple, un élève qui a eu un diagnostic d'un trouble du spectre de l'autisme et qui est enregistré dans le système, on lui attribue un code, là, en quelque sorte, et ça le rentre dans la statistique. Cependant, ce n'est pas représentatif de 100 % des élèves qui pourraient avoir des difficultés à l'école et qui nécessitent d'avoir un plan d'intervention. Donc, c'est pas... Le pourcentage qu'on voit là, pour les élèves EHDAA n'est pas nécessairement représentatif du nombre réel d'élèves en difficulté dans une école. Donc ça, c'est un autre point important à comprendre. Est-ce que j'en oublie? Le retard scolaire, finalement, donc est-ce qu'on a des élèves, finalement, qui, rendus en secondaire 4, ont atteint le 16 ans, là, ce qui impliquerait qu'à moins... S'ils ont atteint 16 ans, normalement, c'est parce qu'ils ont doublé une année. Donc, est-ce qu'ils sont considérés comme en retard, là, entre guillemets, dans leur cheminement scolaire? Alors ça, c'est vraiment tous les différents indicateurs là, qui vont une fois toutes mélangées ensemble, vont nous donner un score sur 10. Alors, ce que ça ne mesure pas, ça ne mesure pas le climat scolaire, ça ne mesure pas est-ce que les élèves ont accès aux professionnels dont ils ont besoin, est-ce qu'on a un gros roulement de personnel dans l'école. Donc, on est vraiment dans des données quantitatives. Fait que c'est un peu comme un bulletin scolaire pour l'école. Mais tout ce qui est au niveau plus qualitatif, donc est-ce qu'on a un sentiment d'appartenance? Est-ce que les élèves se sentent en sécurité dans leur milieu? Est-ce qu'ils sont bien encadrés? Est-ce qu'ils ont accès à du parascolaire? Est-ce que leur motivation va bien? Ça, c'est tous des éléments là, qu'on ne peut pas mesurer. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment le prendre de façon relative. Puis après ça, ben on va en parler un petit peu plus loin, mais aussi pourquoi est-ce que ça n'a pas que des avantages, ce fameux classement?
Ben c'est la rivalité, il ne veut pas. Mais en même temps, moi, je trouve ça positif qu'il y ait une rivalité et une compétition entre les écoles. T'sais, le fait de mettre des écoles privées là-dedans, ça a forcé quand même beaucoup d'écoles publiques à se dépasser, à refaire les choses. On se rend compte que les directions d'école ont peut-être plus d'autonomie qu'on pense. Les directeurs peuvent prendre des décisions. Et il y a des écoles qui sont des success stories là, dans le public, là.
Absolument.
Vraiment, là, absolument. Faut le souligner,
il y en a,
ça.
Il y en a une, en tout cas, dans mes petites recherches.
Même dans le Bas-Saint-Laurent, des endroits plus éloignés des grands centres, là.
Oui, oui, tout à fait. Bien, il y en a quand même quelques-unes des écoles.
Mais c'est
en
bon.
Parler,
moi, je pense qu'on peut saluer ça, là.
On peut en parler
la
tout
compétition.
De suite, là,
bon, ouais, absolument.
Des success stories, oui. Comme on disait. Entre autres, justement, une des petites écoles dont tu parlais, là, l'école des Lacs en Outaouais.
Oui, en Outaouais.
Oui, exactement. Donc, c'est une petite école de village qui a une quand même forte, très forte proportion même d'élèves qui vivent des difficultés. Et eux ont mis de l'avant vraiment un programme pour miser sur le français. Donc, ils se sont dit, si on va consolider tous les acquis au niveau de l'écriture, au niveau de la compréhension de texte, de la lecture, on croit fermement qu'on va réussir à améliorer les choses dans les autres matières. Et jusqu'à présent, ben c'est ce qu'on a. On a vraiment des résultats qui sont super positifs. Donc, c'est une école qui a réussi notamment à vraiment remonter dans le classement au fil des ans. Et c'est vraiment grâce aux mesures qui ont été prises, particulièrement pour le français. Donc ça, c'est un exemple. On a plusieurs autres exemples. Je te dirais, moi, un de ceux qui m'a le plus interpellée, c'est justement une école publique qui n'a pas nécessairement, justement, là, on parle pas d'une école privée, on parle pas d'une école non plus là qui est pleine de programmes particuliers. Donc, c'est une école qui est accessible à tous. Et ils ont mis en place vraiment des belles mesures qui ont donné des super résultats. Donc, eux, leur histoire m'a quand
donc,
même marqué.
Donc, bravo aux profs.
Oui, mais
faut
ben
les valoriser, c'est ça.
L'équipe
école, exactement.
Ouais, l'équipe école a vraiment
bravo.
Mis en place des choses super intéressantes puis sont vraiment sortis des sentiers battus, pardon. Ils ont eu un dégât d'eau, cette école-là, dans le local de retrait. Et plutôt que de faire toutes les réparations nécessaires pour réouvrir le local de retrait, ils ont dit, hey, écoutez, on essaye quelque chose, on fait preuve d'audace. Le local de retrait, c'est terminé.
Out.
Terminé.
On le démolit.
Out. Oui, exact. Et à la place de miser
local
sur
local de retrait, qui est un local de punition.
Ben, tu sais, en gros, c'est quand un élève
est trop
dérangeant en classe, bon, généralement, va se faire envoyer au local de retrait.
Il y a des chaînes, des barreaux puis des barbelés.
Quasiment. Mm. Non, mais il n'avait eu un cas à Shawinigan, un cas extrême pareil, là. C'était quasiment comme une petite prison, là. Tu sais, c'est humiliant pareil pour le kid, hein, tu sais, quand on se met. Puis je comprends que tu veux pas qu'un kid se désorganise en lançant des crayons et des effaces partout ces murs, là, mais en même temps, je sais pas. Ça fait années 50-60 un peu, la cale de retrait.
Ben, je vous dirais, ben, encore une fois, faut faire preuve de nuance.
Ouais.
Ben, avec ce que cette école-là a apporté, donc oui. que je vais expliquer, c'est sûr que je salue leur initiative et je crois que c'est une meilleure initiative que le local de retrait, humblement. C'est sûr que mon côté psycho-éducatif adhère beaucoup à ça. Donc, au lieu d'adopter justement une mesure qui est plus coercitive, là, donc on est plus dans une dynamique de punition. Finalement, quand on envoie un élève au local de retrait, surtout que bon, c'est comme, bon, ben il va finir ta période là-bas, mais dans le fond, l'élève, ben il n'est plus assis dans la salle de classe en train de suivre le cours.
Et tu n'arrives pas à la source du problème.
Absolument
pas.
Par
en avant.
Mais c'est ce que cette école-là a fait. Donc, si un élève est sorti de classe, il devra avoir une rencontre individuelle avec un éducateur spécialisé pour faire un retour sur la situation, pour débriefer ensemble, essayer de trouver des pistes de solutions. Par la suite, il a deux choix. Soit il décide de retourner en classe, finir sa période et de se comporter selon les attentes de l'enseignant. Ou alors, il doit appeler lui-même son parent pour lui expliquer la situation en présence de l'éducateur spécialisé. Et à ce moment-là, son option, c'est il doit quand même réintégrer une classe, mais qui ne sera pas la sienne. Donc, par exemple, un élève de secondaire...
Ça va être l'option 1, bien souvent, qui est choisi, là.
Ben, écoute, au fil des ans, ils ont réussi à passer d'environ 5000 sorties de classe par année à 800 sorties de classe par année.
Wow!
Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, dans le fond, justement, ce que ça montre, c'est que ben, les élèves, au lieu d'être dans le local retrait, finalement, à niaiser puis à pas faire grand-chose, ils sont beaucoup plus assis dans la salle de classe. Et ça, ultimement, ça donne des résultats positifs.
Merci aux dégâts. Peut-être qu'ils ont appelé Kalinette, on s'en fout. Mais le dégâts, elle les a forcés à réfléchir, pareil. Hein.
Absolument.
Souvent,
mais
ça arrive de même dans la vie. Hein. C'est un hasard qui arrive. Puis...
Ben, des fois, c'est ça. C'est quand on se fait sortir un peu de notre zone de confort et qu'on a comme une décision à prendre. Il faut faire preuve de créativité. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait, mais ça donne des super bons résultats. Et clairement, c'est ça. Comme je disais tantôt, mon côté psychoéducatif adhère beaucoup à ça.
Si tu étais, dernière question, ou presque, là, si tu étais consulté, justement, si l'Institut Fraser t'appelait, hey, on aimerait ça que tu fasses partie de l'équipe pour élaborer le futur palmarès, qu'est-ce que tu enlèverais, qu'est-ce que tu garderais, qu'est-ce que tu intégrerais dans les données pour les peaufiner davantage, tout en sachant très bien que la perfection n'est pas de ce monde? Là?
Je pense pas que j'embarquerais dans ce genre de projet-là.
Tu dirais non merci?
Je dirais non merci, effectivement. Ça m'amène, puis tu vas comprendre probablement ma réflexion. En fait, ça m'amène justement, bon, tantôt on l'a comme effleuré rapidement là, le sujet. Tu sais, faut comprendre quand même que ce palmarès-là, bon, je comprends qu'il peut y avoir des côtés intéressants, mais il y a toujours deux côtés à une médaille, là, puis il y en a un qui est quand même moins positif. Tu sais, faut quand même comprendre que ce type de palmarès-là, ça a pour effet... De un, pour les écoles, ça leur met quand même beaucoup de pression. Est-ce que ça peut avoir des aspects positifs? Probablement parce qu'il y a des écoles qui, en se comparant à elles-mêmes au fil des ans, peuvent dire, écoute, il y a tel nombre d'années, on était à telle place, on est conscient qu'on a des défis, on a envie de s'améliorer, puis on le voit, il y a des écoles, en fait, il y a 58 écoles qui ont réussi à considérablement remonter dans le classement parce qu'ils ont mis en place des mesures qui sont efficaces puis qui sont très positives. Donc, par rapport à ça, c'est bien. Par contre, les écoles qui n'y arrivent pas parce qu'elles sont dans des contextes particuliers, tu sais, c'est ça, il y a plein de choses qui sont pas prises en considération. Tu sais, d'emblée, on a des écoles publiques qui n'ont pas nécessairement une tonne de programmes particuliers et qui n'ont pas nécessairement de sélection des élèves et qui accueillent pratiquement juste, c'est ça, tout le monde.
Incluant
et donc,
des élèves en difficulté.
Des quartiers plus défavorisés, où il y a un pourcentage plus grand d'élèves issus de l'immigration, plus d'élèves justement qui vivent des choses plus difficiles à la maison. Donc, nécessairement, c'est des écoles qui partent avec des défis supplémentaires.
Pas avec deux prises en langage commun. Là. Donc, c'est sûr que quand tu te fais mesurer, c'est sûr que tu es désavantagé. L'autre aspect également dont tu peux parler, c'est... Faut que tu y ailles selon la personnalité de ton enfant. Si t'en as un qui est très sportif, l'autre intello, le sportif va s'attacher à une école qui est performante dans les sports. Il y a des écoles qui se démarquent beaucoup dans les sports. Tu sais, moi, je regarde les écoles privées parce que les miens sont allés au privé, là, au secondaire. Il y a des écoles vraiment de niche sport. Saint-Jean-Eudes, qui viennent d'avoir le bol d'or. Ça, c'est peut-être l'exemple parfait. Il y en a une qui c'est plus intello. Séminaire de Québec. À Lérion, c'est le fun, mais c'est plus intello. C'est moins niché que Séminaire Saint-François ou Saint-Jean-Eudes. Tu me suis, donc?
Mais c'est ça.
On ne peut pas dire l'un est meilleur que l'autre, blablabla. Bla, bla. C'est exact. Des personnalités différentes.
Oui, absolument. C'est sûr que ça dépend des tempéraments, des personnalités, des intérêts. Puis les éléments que tu mentionnes, par exemple, ne sont pas pris en considération dans le palmarès. Fait, on ne peut pas se baser exclusivement là-dessus. Puis, tu sais, il y a des élèves qui, je ne sais pas moi, un élève qui a des difficultés au niveau des apprentissages, de l'adaptation et tout ça, et qui vient d'une famille qui n'a pas nécessairement énormément de moyens financiers, qui n'a pas accès à l'école qu'il rêverait de fréquenter, et qui se retrouve à son école de bassin, qui, elle, se retrouve dans le bas du classement, bien, c'est sûr que ça peut être un petit peu démotivant de se faire dire « Hey, mon école est poche, fait que je me sens poche, puis ultimement, je me sens pris un peu là-dedans, dans le... »
Dans le fond du baril.
Dans le fond, ben c'est
mais
ça.
C'est à l'équipe école peut, avoir une attitude d'adulte aussi. De, peut-être de se prendre en main. C'est peut-être un miroir
mais
aussi.
Mais exemple que dans le même t'sais? Quartier, tu sais, mettons, ce jeune-là a un ami qui, lui, fréquente une école. Puis là, il est comme, ah, toi, tu vas dans une école qui est vraiment nulle. Non, non, non. Fait que, tu sais, ça peut quand même apporter une genre de dynamique un petit peu malsaine, j'ai envie de dire, pour les parents aussi. Tu sais, il y a des parents qui vont culpabiliser de dire, ben moi, j'ai pas nécessairement les moyens non plus d'envoyer mon enfant à une autre école que notre école de bassin. Notre école de bassin est super mal évaluée, mais dans les faits, peut-être que cette école-là fait un travail exceptionnel, puis que là, on s'est juste basé sur des résultats. Finalement, des données quantitatives qui ne sont pas représentatives.
Il ne faut pas utiliser les statistiques pour dévaloriser une école de facto.
Non, exactement. Il y a tellement plus que ça. T'sais, à un moment donné, les résultats scolaires,
c'est
une
limité.
Chose. Mais ça ne représente pas tout. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Quand on est un parent, écoutez, allez prendre le pouls, faites la visite de l'école, puis peut-être que vous allez avoir vraiment une belle surprise.
Les profs, les personnalités des profs.
Tout à fait.
Le directeur ultra passionné, ça peut faire une maudite différence. Ça
peut faire une très grande différence. Ben oui. Il y en a des écoles, justement, bon, là, j'ai tellement de. Il y aurait eu tellement de choses à dire, mais des écoles qui, justement, avaient beaucoup d'enjeux sur l'heure du midi, donc beaucoup de batailles, des problèmes d'intimidation, beaucoup de comportements problématiques. Puis finalement, toute l'équipe école s'est mobilisée. Les enseignants, le personnel de soutien, même les concierges pour animer des activités parascolaires et tous les élèves ont fait au moins une activité parascolaire.
Ça, c'est pas chiffrable, tu me suis? C'est pas chiffrable.
Ce n'est pas chiffrable, c'est mais ça. En même temps, tu vois ces données-là, en fait, le fait que tous les élèves s'impliquent là-dedans, ça a amélioré la cohésion scolaire, ça a amélioré le sentiment d'appartenance à l'école, ça a amélioré les comportements, les dynamiques, le climat de l'école. Et tout ça, en bout de ligne, a eu un effet positif sur les résultats, ce qui a permis à l'école de monter son résultat. Mais à la base, ça a rapport avec le climat de l'école, le sentiment d'appartenance et l'équipe de l'école. Donc, on leur lève notre chapeau parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui travaillent dans les écoles qui font vraiment un travail exceptionnel.
Sarah, tu t'en vas en vacances, mais la clinique continue. À quelle place?
Oui, absolument. Donc, la clinique Le Chemin de la Résilience, nous sommes situés à Charlebourg. Les gens peuvent communiquer avec nous là, facilement. Dans le fond, si vous désirez obtenir des services, que ce soit en psychoéducation, en éducation spécialisée, les cours de yoga qui débute sous peu, une hypnothérapeute également. Donc, on a vraiment une panoplie de services pour les familles, les jeunes, les moins jeunes, les adultes, tout le monde. Donc, vous pouvez compléter.
Ça répond au téléphone, même si Sarah est en vacances. Ça travaille.
Oui. L'équipe continue de travailler. Puis,
à partir de 8h le matin, des rendez-vous?
C'est variable, je te dirais. Okay. Là, dépendamment des gens, on n'a pas tous le même horaire. Il y en a qui travaillent le matin, dans le jour, le soir, la fin de semaine. On a vraiment des plages horaires super flexibles pour répondre aux besoins
fun,
des familles. Là. Donc, on s'ajuste. Alors, les gens peuvent compléter le formulaire qui est directement sur notre site web www.lechemindelarésilience.com ou tout simplement communiquer avec nous par courriel directement. Là, c'est la façon la plus rapide d'avoir un retour pour avoir un premier rendez-vous.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Bonnes vacances.
Hey, merci.